Deuxième jour, matine, où quelques heures de félicité mystique sont interrompues par un fort sanglant événement.
Symbole tantôt du démon, tantôt du Christ ressuscité, aucun animal n'est plus suspect que le coq. Notre ordre en a connu de paresseux qui ne chantaient pas au lever du soleil. Et d'autre part, surtout dans les journées hivernales, l'office de matine a lieu quand la nuit est encore profonde et la nature tout endormie. Car le moine doit se lever dans l'obscurité et, longuement dans l'obscurité, prier en attendant le jour, illuminer les ténèbres de la flamme de sa dévotion. C'est pourquoi, sagement, la tradition prévoit des veilleurs, les moines excitateurs, qui ne se couchent pas comme leurs frères, mais passent la nuit en récitant rythmiquement le nombre exact de psaumes qui leur donnent la mesure du temps écoulé, de façon que, au terme des heures vouées au sommeil des autres, par un signal, ils excitent les autres à la veille. Nous fûmes donc cette nuit-là réveillés par ceux qui parcouraient le dortoir et l'hôtellerie en sonnant une clochette, tandis qu'un autre allait de cellule en cellule en criant le Benedicamus Domino, à quoi chacun répondait Deo Gratias. Guillaume et moi, nous nous conformâmes à l'usage bénédictin. En moins d'une demi-heure, nous nous apprêtâmes à affronter la nouvelle journée, puis nous descendîmes dans le chœur où les moines attendaient prostrés sur les dalles en récitant les 15 premiers psaumes jusqu'au moment où entrèrent les novices conduits par leur maître. Ensuite, chacun s'assit dans sa propre stalle et le chœur entonna « Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam ». Le cri s'éleva vers les voûtes de l'église comme la supplique d'un enfant. Deux moines montèrent en chaire et ouvrirent à pleine voix le psaume 94 « Venite exultemus » que suivirent les autres prescrits. Et j'éprouvais l'ardeur d'une foi renouvelée. Les moines étaient dans les stalles, 60 figures rendues pareilles par le froc et le capuchon, 60 ombres à grand-peine éclairées par le feu du grand trépied, 60 voix unies dans les louanges du Très-Haut. Et en entendant cet émouvant concert, vestibule conduisant aux délices du paradis, je me demandais si vraiment l'abbaye était un lieu de mystère soigneusement caché, d'illicites tentatives de les dévoiler et d'obscures menaces. Parce que maintenant, au contraire, elle m'apparaissait comme un refuge de saints, un cénacle de vertu, une chasse de sapience, une arche de prudence, une tour de sagesse, un enclos de mansuétude, un bastion de courage, un encensoir de sainteté. Après six psaumes, commença la lecture de la Sainte Écriture. Certains moines dodelinaient de sommeil et un des moines circateurs déambulait entre les stalles avec une petite lanterne pour réveiller qui s'endormait. Si quelqu'un était surpris en proie à l'assoupissement par pénitence, il prenait la lanterne et continuait le tour de contrôle. Ensuite, on entonna le chant de six autres psaumes. Après quoi l'abbé donna sa bénédiction, l'hebdomadier dit les prières, tous s'inclinèrent vers l'autel en une minute de recueillement, dont personne, s'il n'a vécu ces heures d'ardeur mystique et de suprême paix intérieure, ne peut comprendre la douceur. Enfin, le capuchon rabattu de nouveau sur le visage, tous s'assirent et entonnèrent solennellement le Te Deum. Moi aussi, je louai le Seigneur parce qu'il m'avait libéré de mes doutes et délivré du sentiment de malaise où la première journée à l'abbaye m'avait jeté. Nous sommes des êtres fragiles, me dis-je. Même parmi ces moines doctes et pieux, le malin fait rôder les petites envies, les inimitiés subtiles. Mais il s'agit de fumée qui se dissipe au vent impétueux de la foi. À peine se réunissent-ils tous au nom du Père, Christ descend encore parmi eux. Entre matine et l'aude, le moine ne regagne pas sa cellule, même si la nuit est encore profonde. Les novices suivirent leur maître dans la salle capitulaire pour étudier les psaumes. Quelques moines restèrent dans l'église pour vaquer aux soins des objets du culte. La plupart déambulèrent en méditant en silence dans le cloître, et ainsi fîmes-nous, Guillaume et moi. Les servants dormaient encore et continuaient à dormir quand, le ciel toujours sombre, nous revînmes dans le chœur pour les laudes. Le chant des psaumes recommença, et l'un d'eux en particulier, de ceux prévus pour le lundi, me replongea dans mes premières craintes. La faute s'est emparée de l'impie, de l'intime de son cœur, il n'est crainte de Dieu dans son regard, il agit par fraude devant lui, de façon que sa langue devienne odieuse. Ce me parut un mauvais présage que la règle lui prescrit précisément pour ce jour-là un avertissement aussi terrible. La traditionnelle lecture de l'Apocalypse, après les psaumes de l'aude, ne calma pas non plus mes frémissements d'inquiétude, et me revinrent à l'esprit les figures du portail qui m'avaient tant subjugué la veille. Cœur et yeux. Mais après le répond, l'hymne et le verset, quand commençait le cantique de l'Évangile, j'aperçus derrière les fenêtres du cœur, juste au-dessus de l'autel, une pâle clarté qui faisait déjà luire les couleurs des vitraux jusqu'alors tristement enténébrés. Ce n'était pas encore l'aurore qui triompherait pendant prime, juste au moment où nous chanterions « Deus quis est sanctorum, splendor mirabilis » et « Iam lucis orto sidere ». C'était à peine la première et chancelante annonce de l'aube hivernale. Mais ce fut suffisant, et elle fut suffisante pour raffermir mon cœur, la légère pénombre qui dans la nef remplaçait maintenant l'obscurité de la nuit. Nous chantions les paroles du livre divin, et tandis que nous témoignions du Verbe venu éclairer les gentils, j'eus l'impression que l'astre diurne dans toute sa splendeur envahissait le temple. La lumière, encore absente, me sembla briller dans les paroles du cantique, lit mystique qui s'épanouissait tout parfumé entre les arêtes des voûtes. Merci au Seigneur pour ce moment de joie ineffable, priai-je en silence, et j'interpellai mon cœur. Et toi, sot que tu es, que crains-tu? Soudain, des clameurs s'élevèrent du côté de la porte septentrionale. Je me demandai pourquoi les servants, en se préparant au travail, troublaient ainsi les saintes fonctions. À cet instant, entrèrent trois porchers, la terreur peinte sur leur face, et ils se pressèrent autour de l'abbé pour lui murmurer quelque chose. L'abbé d'abord les calma d'un geste, comme s'il ne voulait pas interrompre l'office. Mais trois autres servants entrèrent, les cris se firent plus forts. « C'est un homme mort !» disait quelqu'un, et d'autres « Un moine, n'as-tu pas vu ces choses ?» Les orants se turent. L'abbé sortit précipitamment, faisant signe aux scélériers de le suivre. Guillaume leur emboîta le pas, mais déjà les autres moines aussi abandonnaient leur stalle et se précipitaient dehors. Le ciel était clair maintenant, et la neige sur le sol rendait encore plus lumineux le plateau. Sur l'arrière du chœur, devant les sous, où depuis la veille trônait le grand récipient empli du sang des cochons, un objet bizarre, presque cruciforme, pointait du bord de la jarre, comme s'il s'agissait de deux pieux fichés en terre, et qu'il faut recouvrir de chiffons pour épouvanter les oiseaux. C'était en revanche deux jambes humaines, les jambes d'un homme enfoncé la tête la première dans le vase de sang. L'abbé ordonna qu'on retirât le cadavre du liquide infâme, car hélas, aucune personne vivante n'aurait pu rester dans cette position obscène. Les porchers, hésitant, s'approchèrent du bord et, se souillant de sang, en tirèrent la pauvre chose sanguinolente. Comme on me l'avait dit, remuée selon qu'il le faut, sitôt après avoir été versée et laissée au froid, le sang ne s'était pas caillé, mais la couche qui recouvrait le cadavre tendait maintenant à se solidifier, en imbibait les vêtements, rendait le visage méconnaissable. Un servant s'avança, une seille d'eau à bout de bras, et en jeta sur la face de cette malheureuse dépouille. Quelqu'un d'autre se pencha sur elle avec un linge pour en nettoyer les traits. Et apparut à nos yeux le visage blanc de Vénantius de Salvemec, le savant S. chose grecque, avec qui nous avions parlé dans l'après-midi devant les manuscrits d'Adelme.